contre-spirituel aujourd'hui sera question de sainte Jeanne de France, qui a été canonisée en 1950. Cette reine de France est pourtant morte en 1505. C'est une femme qui pourra intéresser beaucoup, beaucoup de gens. D'abord, ce qui est surprenant, on l'appelle aussi sainte Jeanne de Valois, assez souvent. Elle appartient à la famille des Valois. Mais en fait, c'est sainte Jeanne de France. Vous savez qu'elle n'avait que 9 ans quand il y a eu ce contrat de mariage qui a été signé en 1473. Et elle se trouvait à épouser, à 9 ans, donc, le duc d'Orléans, 11 ans, qui deviendra Louis XII, son mari, et c'est comme ça qu'elle sera reine. Les dispenses avaient été accordées par Rome. On a procédé au mariage religieux sans aucun apparat, dans une sorte de consternation, nous disent les auteurs. Et son père, le roi Louis XI, l'a fait bénir ce mariage dans la chapelle de Montrichard et il a même pas pris la peine d'y assister. Quant au pauvre petit duc d'Orléans de 11 ans, il a protesté contre la violence qui lui était faite, il n'était pas content. Et il n'a jamais voulu toucher à sa femme. Jamais. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi, c'est que, mais d'abord, elle était très très laide. Je regrette de le dire, mais c'est le cas. Elle a souffert donc du mépris, de la dérision. Son père même ne l'aimait pas, ne souciait pas de la voir. Non plus que le duc d'Orléans, son mari, son petit mari, son jeune mari. Pourtant, elle n'a s'en est jamais plainte, dit-on. Et le duc d'Orléans s'est révolté à un moment donné. Il a été mis 3 ans en prison dans une cage. Une cage de fer. Lui qui va devenir Louis XII. C'est extraordinaire ce qui se passait à cette époque. Et c'est sa femme, Sainte Jeanne, toute jeune, qui est intervenue auprès de Charles VIII, qui avait succédé à son père, Louis XI, pour obtenir sa délivrance. Et puis, quand il est devenu roi, eh bien, son mari, le duc d'Orléans, devenu Louis XII, qui était un homme un peu ingrat, s'est empressé de faire annuler le mariage. Ils l'ont obtenu de Rome. Il a juré devant témoins qu'il l'avait contracté par contrainte, qu'il n'avait jamais habité avec Jeanne. En d'autres termes, qu'il n'avait jamais consommé ce mariage. La pauvre reine en a évidemment souffert, elle qui était méprisée à cause de sa laideur. Pour ce qui est justement de sa laideur, j'ai trouvé dans la vie de Jeanne de France, fille de Louis XI, la Cendrillon des Valois, écrit par le duc de Lévis-Mirepoix. Oh, j'ai publié il y a bien des années, ne cherchez pas ça, c'est chez Flammarion il y a très longtemps. Et je lisais en page 238, on a conservé dans la chapelle d'un prieuré à Fargues, chapelle de masques de plâtre colorié de cette reine qui a fondé une communauté de l'ordre de la Très-Sainte-Vierge ou qu'on appelle aussi les Annonciades. Ça existe encore, elles ont 4 cloîtres en France. Et un ailleurs, d'ailleurs. Et le duc de Lévis-Mirepoix raconte que cette image a trouvé un refuge depuis près de 2 siècles dans l'église paroissiale de Crescence, près d'Albi, donc dans le sud de la France, où elle occupe une niche sur la paroi du sanctuaire. Il est allé vous contempler ça. Et il dit, ici, si je le cite, c'est le style d'un duc, le duc de Lévis-Mirepoix, qui était quand même membre de l'Académie française, je crois. « Ainsi de Jeanne, un visage dont on ne voit pas la laideur, entourée de la coiffe de l'ordre, car elle était ensevelie dans le costume de l'ordre qu'elle a fondé, à l'intérieur duquel, d'ailleurs, elle avait fait des vœux, mais elle n'était pas revêtue des vêtements de la communauté, parce que, comme elle était reine, en principe, même s'il y avait eu une reconnaissance de nullité de mariage, Elle se devait à son titre, à son rang. Et pour rendre service aux pauvres, pourrait soigner les malades, etc. Donc, le duc de Lévis-Mirepoix a écrit un visage dont on ne voit pas la laideur, entouré de la coiffe, vous savez, ce qui entoure la figure d'une sœur, hein, la coiffe de l'ordre, étrange, presque hallucinant de majesté. Écoutez ce qu'il écrit, c'est épouvantable. Une bouche plus grande que l'accoutumée, qui barre irrégulièrement presque tout le visage avec des lèvres lourdes, comme des paupières, et serre énergiquement. Vous voyez le genre, hein? Figure extraordinaire, les yeux trop grands, le nez trop grand, la bouche trop grande, les tempes trop larges, le corps gracile, trop de force dans trop de fragilité. Elle n'a pas les proportions humaines. Elle est sans grâce et sans disgrâce, éminemment originale. Elle arrête. Oh, elle ne repousse pas, elle ne charme pas non plus, elle surprend. Elle saisit. Elle impose. On dirait presque qu'elle envoûte. On conçoit l'attachement mêlé de frayeur des petites moniales, ces petites sœurs des annonciades. Et le duc de Lévis-Mirepoix termine cette description en disant « Si laideur il y a, c'est l'espèce de laideur féerique d'un être entre ciel et terre, transporté par la puissance spirituelle, une austère apparition dans la légende sacrée, évoquée par une musique triste et mystérieuse. » C'est de la littérature, évidemment. Mais il y a une grande part de vérité dans tout ça. Mais qui était donc cette sainte Jeanne de Valois, hein, qui a fondé l'ordre de la Vierge Marie, ou l'ordre de l'Annonciade? Bien, sainte Jeanne de Valois, sainte Jeanne de France, et donc, comme je vous ai dit, la fille de Louis XI, roi de France, sa mère Charlotte de Savoie. Elle vient au monde en l'an 1464. Elle est élevée au château d'Amboise, magnifique château que vous avez peut-être visité, avec son frère, qui va devenir roi sous le nom de Charles VIII, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et Anne, sa sœur aînée, qui mariera le comte de Beaujeu. Dès sa jeunesse, à peine âgée de 5 ans, elle importune assez souvent la comtesse de Lignières, sa gouvernante. Il y a déjà eu des Lignières qui sont venues à Montréal, ils sont retournées en France il y a quelques années. Elle l'importunait, sa gouvernante, pour être conduite à l'église. Elle aimait ça, aller à l'église toute jeune pour prier Dieu. Un peu comme mon petit-fils aimait ça rentrer dans des églises, il trouvait que c'était des beaux châteaux, le château de bon Dieu. Et le roi n'approuve pas tellement ses dévotions, il veut les empêcher, hein. Il se contente d'abord de lui ordonner de vivre d'une autre manière, puis de quitter ça, ses dévotions fréquentes qui ne lui plaisent pas du tout. Il n'y va pas de même mort, ce roi Louis XI, il est loin d'être comme Louis IX, Saint-Louis. Il la menace de la punir si elle continue, mais la princesse Jeanne, elle n'en est que plus fervente et plus attachée à toutes ces sortes d'exercices de piété qu'elle aime. Mais cependant, comme elle n'a plus la permission d'aller si souvent dans les églises, eh bien, elle n'est pas tellement contente, hein, évidemment. Elle ne peut s'empêcher de pleurer, puis elle se plaint à la très sainte Vierge, et qu'elle a prise pour sa protectrice. Elle se plaint de la dureté du roi auprès de la sainte Vierge. Elle dit que le roi, son père, ne l'aime pas. Et la sainte Vierge prend soin de la consoler, dit-on. Car un jour qu'elle l'a pris avec ferveur, la Sainte Vierge, de lui enseigner la manière de la servir puis de lui plaire, eh bien la petite Sainte Jeanne entend une voix qui l'assure qu'elle quittera le monde un jour et qu'elle établira un ordre de filles qui s'occuperont avec elle à chanter les miséricordes du Seigneur, comme les sœurs dans les couvents. À l'époque, toutes les sœurs étaient des sœurs enfermées dans des couvents. Ça ne commencera qu'avec Sainte Marguerite Bourgeois, surtout, hein, des siècles plus tard. Et tous les historiens qui ont écrit la vie de cette princesse ont parlé de cette grâce extraordinaire que Dieu lui a faite. Hein. Elle ne songe plus, après cela, à quitter le monde et à suivre Jésus-Christ. Son plaisir est de parler aux personnes religieuses, d'entrer dans les monastères, de s'entretenir du bonheur qu'il y a de vivre dans la solitude, hors de l'embarras et des inquiétudes que l'on trouve dans le monde. Ce genre de vie, puis ces inclinations qu'elle a, au fond, si peu conformes à tout ce qu'on raconte dans le monde, que la vie dans les monastères, c'est une vie de tombeau, elle est tellement attirée par ça que ça déplaît encore plus fort au roi, qui pour la punir, eh bien, il est longtemps sans le savoir, il s'imagine ensuite que les attraits du monde pourraient la toucher, c'est comme ça qu'il va vouloir la punir, et c'est pourquoi il l'a fait aller dans toutes les réceptions de divertissement, puis toutes les assemblées agréables de la cour. Il veut vraiment que sa fille devienne une femme du monde. Mais c'est toujours inutilement, car la princesse Jeanne ne relâche rien pour cela de tous ses exercices de piété, et même si son plus grand attrait est pour la vie religieuse et qu'en conséquence de, vous savez, la révélation qui lui a été faite dans l'apparition de la Vierge qu'elle a eue, là, que Dieu la destine à cet état, dans les monastères, elle a décidé de se retirer du monde, toujours. Et elle se voit obligée d'y rester, pauvre elle, car dans le temps qu'elle pense à déclarer à son père le projet qu'elle a finalement de bien entrer en religion, il lui déclare comme ça qu'il veut la marier. Et il veut qu'elle se prépare à épouser le duc d'Orléans. Elle n'a que 9 ans, qui est, comme on dit, le premier prince du sang, lui qui a 11 ans. Et cet ordre imprévu n'ébranle pas Sainte Jeanne de France, malgré son tout jeune âge. Vous savez que souvent des enfants à cette époque, comme d'ailleurs ça se faisait il n'y a pas si longtemps quand j'étais jeune, on voulait rentrer dans des monastères à 8-9 ans, on y serait rentré si ça avait été possible. Je me souviens, mon Dieu, on avait ça comme ça. Hein. Et il n'est pas question pour elle, donc, de changer de résolution. Au contraire, remplie de confiance en Dieu, qui lui a inspiré l'idée de quitter le monde, elle va se jeter au pied de son crucifix. Elle demande à Dieu qu'il lui accorde l'accomplissement de ses désirs, et elle va être exaucée, car le jour que le mariage est conclu, bien le duc d'Orléans, qui ne l'épouse que par la force, lui, il a 11 ans, n'est-ce pas, il proteste de la violence, comme je vous ai dit, qu'on lui fait. Il déclare qu'il n'y consent que par contrainte, pour sauver sa vie et sa liberté, que le roi voulait lui faire perdre. D'ailleurs, il va le lui faire perdre. Il va l'emprisonner 3 ans dans une cage de fer, s'il n'exécute pas ses volontés. Hein. Et alors, bien loin de songer à marier la princesse Jeanne, qui est malheureusement bien laide, il ne cherche qu'à lui donner des preuves de son indifférence, pour ne pas dire de son mépris, puis même de sa haine. Et il fait ça jusqu'à ce qu'enfin, après la mort de Charles VIII, ils deviennent roi, là, sous le nom de Louis XII, en 1498, donc il y a 500 ans. Et il n'a peur de personne qui pourrait s'opposer à ses volontés. Il travaille à faire dissoudre son mariage, en disant bien que cette princesse ne lui avait été donnée que par force, et que le jour de ses noces, il a d'ailleurs protesté devant tout le monde, puis en bonne forme, légale, puis en présence de témoins irréprochables, il n'a jamais, jamais eu l'intention de contracter aucun mariage avec elle. Alors il s'adresse donc au pape Alexandre VI. Et ce pape nomme 3 commissaires pour prendre connaissance de cette affaire, et ces commissaires sont Philippe, cardinal de Luxembourg, évêque du Mans, Louis d'Amboise, évêque d'Albi, qui fut aussi cardinal dans la suite, et Ferdinand, évêque de ce temps en Afrique, auquel il donne tout pouvoir pour la juger en dernier ressort, et ces 3 prélats, là, après avoir bien examiné les raisons que le roi a alléguées, déclarent le mariage nul. Elle est donc libre, Sainte Jeanne de Chantal. Comment annoncer à une reine, qu'elle n'est pour ainsi dire plus reine, puisque son mariage est déclaré nul par le pape? Eh bien, le cardinal de Luxembourg, qui est évêque du Mans, est nommé pour annoncer la sentence à la reine. Lorsqu'on l'avertit que ce cardinal vient pour exécuter ce qu'il doit faire, l'annonce, la commission qu'il apporte, Elle s'élève de son oratoire, hein, les reines et les rois avaient des oratoires, c'est-à-dire des chapelles, si vous voulez, dans leur château. Ça doit être bien agréable. Il y a des gens qui ont ça chez eux, j'en connais à Montréal. Alors elle s'élève de son oratoire, où elle est, là, après avoir baisé les pieds de son crucifix, puis après avoir imploré l'assistance de la Très Sainte Vierge, évidemment. Puis elle va dans la salle où elle trouve son confesseur avec le cardinal du Luxembourg. Il y a un grand nombre de princesses et de dames et beaucoup de peuples qui accourent à ce spectacle. C'est quelque chose, hein? Alors elle s'assoit, cette reine, dans un fauteuil. Puis le cardinal lui dit que les prélats délégués par le pape, ayant considéré devant Dieu, après une exacte discussion, que le très puissant et très chrétien Louis d'Orléans, son mari, n'a épousé la sérénissime Jeanne de France que par contrainte, et déclare que le mariage est nul. Il laisse ces deux augustes personnes, comme on dit, dans une entière liberté de s'engager comme il leur plaira. À ces paroles, elle est d'abord frappée comme d'un coup de foudre. Mais considérant que ce malheur lui vient comme une grâce de Dieu, elle ne dit autre chose que ces quelques paroles. Dieu soit béni, je suis trop heureuse de souffrir cet affront pour lui. Et je suis persuadée qu'il ne permet ceci que pour me donner moyen de le mieux servir à l'avenir que je ne l'ai fait par le passé. Alors la reine de France, sainte Jeanne, dont le mariage est reconnu nul, se retire dans la ville de Bourges, où il y a une très belle cathédrale, dédiée à saint Étienne, le premier martyr, où elle passe le reste de ses jours dans les exercices de dévotion et de piété. Elle édifie toute la France par la sainteté de sa vie. Je dirais que sa laideur est mise à profit. Cette épreuve terrible, comme chez certaines personnes qui sont nées avec des malformations physiques, parviennent à trouver autre chose qui est beaucoup plus important et qui est la vie de leur âme qui peut s'unir à Dieu. Je parlais ces jours-ci à quelqu'un qui est aveugle depuis quelques années. Et cet homme m'a tellement impressionné au téléphone, car il considère, pour ainsi dire, que c'est une grande grâce qui lui a été donnée. Curieux, hein? Oui, il a découvert la Bible, il a découvert toutes sortes de choses qu'il lit en braille. Alors, c'est 43 volumes pour la Bible, et c'est immense, c'est un travail énorme, ce sont des difficultés. Mais à l'intérieur de ces difficultés, il va à l'essentiel. Alors quand elle entre dans la ville de Bourges, sainte Jeanne de France, y est reçue avec des acclamations puis des honneurs extraordinaires. Alors, on vient pour la complimenter. Il n'y a personne qui ne donne des marques d'une joie sincère. Tout le monde est heureux de la voir. Elle est la reine de France, peu importe de ce dont elle peut avoir l'air aux yeux de certains gens un peu mesquins. Elle veut descendre d'abord dans l'église cathédrale Saint-Étienne pour y prier le premier de tous les martyrs, n'est-ce pas, celui qui s'est fait lapider sous les yeux de Saul, qui va devenir Saint-Paul, peut-être le plus grand prédicateur chrétien catholique de tous les temps. Alors, c'est en l'honneur de ce saint que la cathédrale est consacrée, puis elle veut y faire à Dieu un sacrifice de toutes les grandeurs de la terre dont elle a été revêtue pour se donner. Elle veut lui offrir tout ce qu'elle a souffert jusqu'alors, mais principalement cette dernière disgrâce de perdre, pour ainsi dire, son mari, la cour, les honneurs, la gloire, et elle va visiter ensuite la Sainte-Chapelle, après quoi elle se renferme dans son palais, car il y a un palais qui lui est destiné. Lorsqu'elle se voit en liberté de pouvoir s'adonner entièrement aux exercices de piété, la première pensée qu'elle a est de commencer l'ouvrage qu'elle médite depuis si longtemps et qui est celui, comme je vous ai dit, d'établir une nouvelle congrégation de filles en l'honneur de l'Annonciation de la Vierge Marie, l'Annonciation qui se fête le 25 mars, exactement 9 mois avant la naissance de Jésus, le jour de Noël, tel qu'on la fête selon des coutumes très anciennes. Elle ne doute pas que si Dieu l'a fait passer par tant d'épreuves, ce n'est que pour la mettre en état d'exécuter ce projet qu'elle a dans la tête, là, et dans le cœur. Et elle consulte à ce sujet son confesseur, franciscain, le père Gilbert Nicolai, et puis qui n'approuve pas ses idées. Il lui présente les difficultés, puis les oppositions qui se trouveraient sur son chemin, et il lui conseille d'établir plutôt un monastère de religieuses, mettons des Clarisses, à l'exemple de la reine Charlotte de Savoie, sa mère, qui a fondé les Clarisses de l'Ave Maria à Paris. Mais l'ex-reine de France, Jeanne, lui fait une réponse pleine de courage et de confiance en Dieu, en lui disant que c'est la volonté de Jésus-Christ, puis sa très sainte mère, et qu'elle est sûre qu'ils vont l'assister dans toutes les oppositions puis les difficultés qu'elle pourrait rencontrer. Alors 2 ans s'écoulent, sans qu'elle puisse exécuter son projet, puisque son confesseur l'approuve pas. Elle est obéissante, elle une reine. Mais elle tombe malade, elle est un peu frustrée, disons, sur les bords, hein? Et ses forces diminuent de jour en jour, puis elle est réduite à une telle extrémité que les médecins jugent qu'elle ne pourra vivre longtemps. Alors elle commence à se disposer à la mort, par une parfaite acceptation de cette mort qui s'annonce, là. Elle se confie à son confesseur, mais elle ne peut pas s'empêcher de lui déclarer que l'opposition qui la porte à l'exécution de son projet de fondation, mais c'est ça qui cause cet état dans lequel elle est. Et jusque-là, son confesseur a regardé l'entreprise de la reine comme une chose plutôt chimérique, ou du moins tellement difficile qu'il croit que c'est une témérité que d'y penser, mais voyant par les dispositions de Sainte-Jeanne de France qu'il y a quelque chose de surnaturel, là, dans l'ardeur qu'elle témoigne pour la réussite de son projet, mais il accepte, il se rend sa volonté. Il lui laisse suivre les attraits de la grâce, comme on dit, et les inspirations divines, dont son cœur est nourri, son cœur est plein de tout ça, et ça lui donne une si grande joie à la reine qu'elle commence dès lors à se mieux porter, puis à reprendre peu à peu ses forces. Hein, c'est souvent psychosomatique, hein, nos dépressions. Alors, tous deux demeurent d'accord que la première chose à laquelle il faut penser est de trouver des filles, oui, qui ont les qualités nécessaires pour fonder ce nouveau monastère. Alors le père, son père directeur, se charge du soin de chercher. Il trouve 10 filles qui veulent embrasser cette nouvelle vie, puis la reine les reçoit comme de la main de Dieu. Et puis, elle les regarde comme les premières pierres fondamentales de son édifice spirituel. Elle en forme une petite communauté, puis elle leur donne une supérieure, où elle les instruit elle-même des observances religieuses. Elle se sent déjà religieuse jusqu'au fond de son être, cette reine. Et puis, elle s'entretient avec elle d'une manière qui les charme puis les édifie en même temps. Elle a le tour. Hein? Tout est réglé parmi elles, en sorte que toutes les heures de la journée sont employées à la méditation, comme dans les monastères, hein, au chant, à la lecture, puis évidemment au travail. Leur vie est très austère et leur ferveur si grande qu'il faut quelquefois la modérer. Et ce sont des jeunes, hein, on est enthousiaste quand on est jeune, principalement là, dans les exercices qu'on appelle les exercices de l'humilité puis de la mortification, hein, dans lesquels ces sœurs-là s'efforcent de surpasser les unes les autres. Nous parlons aujourd'hui de Sainte-Jeanne de France. Une femme laide, qui a été rejetée par son mari. Le mariage a été d'ailleurs déclaré nul par le pape. Et cette reine de France fonde un monastère. Alors quand Sainte-Jeanne de France juge que ses sœurs, qu'elle vient de réunir avec son directeur, sont suffisamment disposées, elle leur dresse des règles, elle leur prescrit la forme de vie qu'elle doit suivre dans ce nouvel ordre. Après en avoir conféré avec son confesseur, évidemment, qui est en cela d'un très grand secours, hein. Alors, la règle qu'elle compose sous le titre des 10 vertus de la très sainte Vierge contient 10 chapitres. Écoutez bien ça, c'est assez spécial. Le premier chapitre traite de la chasteté. Le second, de la prudence de la très sainte Vierge. Le troisième, de son humilité. Le quatrième chapitre parle de la foi de Marie. Hein? Quelle foi quand elle dit oui à l'archange? Gabriel, le 25 mars, on va célébrer ça. Le cinquième chapitre traite de la dévotion de la Vierge, et le sixième de son obéissance. Le septième chapitre parle de sa pauvreté. Elle devait être bien pauvre quand le Christ est parti, elle était veuve. Elle devait s'occuper du plus jeune des apôtres, Jean. Et puis, le huitième chapitre parle de sa patience. Et le neuvième, de sa piété. Puis le dixième chapitre, de sa douleur ou de sa compassion. Alors, la reine de France donne à ses religieuses toutes les instructions nécessaires pour imiter la très sainte Vierge dans ses 10 vertus, en se consacrant par le vœu perpétuel de chasteté à son exemple, en gardant le silence à certains temps pour imiter sa prudence, en se soumettant à leur supérieur, qui doit porter le nom d'Ancelle, ça vient de Ancilla en latin, qui veut dire servante. La supérieure est la servante, comme le pape dit qu'il est le serviteur des serviteurs du Christ. Alors la supérieure est donc la servante, l'Ancelle, et ça c'est pour imiter Marie. Elle ne reçoit pas de filles suspectes dans le couvent, de quelque erreur, des filles qui transportent toutes sortes d'erreurs, qui racontent n'importe quoi, comme c'est fait aujourd'hui. Il y a tellement de catholiques qui disent n'importe quoi aujourd'hui, c'est pas possible. Et elles doivent imiter la foi de Marie, et aussi les autres vertus. Et c'est pourquoi on a donné à cet ordre le nom de la Bienheureuse Vierge Marie, autrement dit, de l'Annonciade, ou des 10 vertus de Notre-Dame, comme je vous l'avais mentionné dès le début. L'humilité de Sainte Jeanne de France, reine de France, est si grande qu'elle se défie de ses propres forces. Elle veut encore consulter Saint François de Paule. Connaissez Saint François de Paule? Je vous en ai parlé il y a bien longtemps, le 2 avril 96. Oh, c'est une vie extraordinaire que celle de Saint François de Paule. Ben alors, elle veut le consulter, lui qui est alors en France, et avec lequel d'ailleurs elle correspond par lettre, tellement sa réputation est dans toute l'Europe, Saint François de Paule. Et ce grand saint, après avoir lu la règle qu'elle a écrite, ben il lui écrit, lui à son tour, que le projet qu'elle a vient de Dieu, et qu'il faut qu'elle achève son entreprise, puis qu'elle ne se rebute pas pour les obstacles qu'elle aura à surmonter. Il y a toujours des obstacles, de toute façon, quand on fait des choses intéressantes. Et encouragée par cette lettre, elle ne diffère plus l'exécution de cet ouvrage, dont elle rapporte toute la gloire à Dieu, évidemment, comme elle le fait depuis son enfance. Elle demande premièrement la permission au roi, oui, son ancien mari, d'établir cet ordre et de faire bâtir un monastère à Bourges, ce qu'il lui accorde. Elle envoie ensuite au père Guillaume Morin franciscain à Rome pour en obtenir l'approbation du Saint-Siège, mais il ne réussit pas dans sa commission car, bien que le pape, qui était alors Alexandre VI, n'était pas le meilleur des papes, n'est-ce pas, mais comme pape, dans l'histoire des papes, même rédigée par un protestant luthérien comme Ludwig Pasteur, on s'aperçoit qu'il était, disons, un bon pape dans le sens du mot pape. Purement et simplement, en dehors de ça, il n'était pas drôle. Alors, toi que le pape, donc, qui était encore Alexandre VI, s'opportait à lui accorder sa demande, mais si les cardinaux qui sont prévenus contre les établissements nouveaux ordres, ils veulent pas multiplier les congrégations, les ordres, etc. Il faut rentrer dans l'ordre de Saint-François, l'ordre de Saint-Dominique, l'ordre de Saint-Benoît, etc. Et ainsi, le père Guillaume Morin est obligé de s'en retourner après avoir inutilement tenté toutes sortes de moyens pour obtenir ce qu'il demandait. Alors là, le père Gilbert Nicolas est confesseur de la reine. Aussi fâché que surpris du mauvais succès de cette entreprise, lui, il décide d'aller lui-même à Rome. Qu'est-ce qu'il fait? Des tentatives, évidemment, mais toujours inutilement, jusqu'à ce qu'enfin, comme il se disposait à retourner en France, le cardinal Jean-Baptiste Ferrier, évêque de Modène, qui était dater, comme on dit, et avait beaucoup d'autorité, l'envoie chercher pour lui dire qu'il veut prendre sa cause en main. C'est un merveilleux cardinal, lui, ce cardinal Jean-Baptiste Ferrier. Il a eu sur ce sujet une vision du martyr Saint-Laurent, notre Saint-Laurent, et de Saint-François d'Assise, qui lui ont ordonné de poursuivre la formation de la confirmation de cette règle. Et en effet, le pape Alexandre VI apprend cette vision, et ce méchant pape était quand même un croyant, hein? Et il est d'ailleurs édifié de la constance du père Gilbert Nicolas, confesseur de la reine Jeanne, et de la piété aussi de cette reine extraordinaire. Alors, le pape confirme la règle 14 février de l'an 1501 et il accorde aux religieuses qui doivent l'observer beaucoup de privilèges et de grâces singulières, comme on disait à l'époque. Ce pape donne donc au père Gilbert le confesseur là, des marques de son estime. Il change même son nom en celui de Gabriel Marie par dévotion pour l'Annonciation, Gabriel, l'Archange, Marie, la Sainte Vierge, afin que par ces deux noms, n'est-ce pas, on connaisse la part là, que ce prêtre a eue dans l'établissement de l'ordre fondé par la reine, et cet ordre qui se fait gloire là, de porter le nom du mystère qui a été accompli par la très sainte Vierge et par cet archange Gabriel le jour de l'Annonciation. Ce sont donc les Annonciades, ou l'ordre de la très sainte Vierge. Ce bon père obtient donc ce qu'il a désiré avec tant d'ardeur. Et il part de Rome peu de jours après, puis il vient en France le plus rapidement possible. Et quand la reine apprend son succès, elle en rend grâce à Dieu, évidemment, auquel elle en rapporte encore toute la gloire. Elle le sait. Elle veut achever au plus tôt l'ouvrage qu'elle a commencé, puis elle a fait bâtir un monastère à côté de son palais. En attendant qu'il soit achevé, puis en état d'y loger, elle donne le voile, le 8 octobre 1502, à 5 filles des plus remarquables, de celles qu'elle a instruites, là. Et c'est donc le commencement de son ordre qui existe toujours. Elle leur fait faire un curieux habit, dont les différentes couleurs soient capables de rappeler continuellement dans leur mémoire l'esprit de leur état, la sainteté de leurs obligations. Ça consiste d'abord en une robe grise, un scapulaire rouge, une simarre, c'est-à-dire une espèce de soutane qu'on porte sous la robe, et cette simarre est bleue, un manteau blanc. Le symbole, la robe grise leur rappelle la pénitence dont elles font profession. Le scapulaire rouge leur ferait souvenir de la passion de Jésus-Christ, qui doit être à tout moment gravé dans leur cœur, car c'est là le chemin qui mène à la résurrection. La simarre, là, ou la soutane bleue, là, qu'elles ont au début, puis qui a été changée depuis par un ruban bleu, doublant une médaille d'argent, ça leur apprend qu'elles doivent élever leur âme vers le ciel, puisque c'est bleu, hein? Et le ciel, c'est tout leur bien, leur héritage. Puis le manteau blanc qui les recouvre les avertit qu'elles sont obligées d'imiter la pureté de la très sainte Vierge. Enfin, cette étonnante fondatrice leur fait donner un anneau à la profession comme une marque de la fidélité qu'elles doivent garder à Jésus-Christ, leur époux. C'est comme si elles étaient mariées. Et les 5 premières filles qui reçoivent cet habit sont bientôt suivies de plusieurs autres, qui renonce à tous les plaisirs du monde pour vivre dans la retraite et dans la solitude. Et cette sainte reine, voulant leur donner l'exemple du sacrifice qu'elles doivent offrir à Dieu, elle est la première à se consacrer à son service par des vœux solennels qu'elle prononce le jour de la Pentecôte de l'an 1503. Elle voudrait bien, après ça, s'enfermer avec ses filles, mais, comme je vous ai dit, elle est reine, et considérant que son autorité est nécessaire pour soutenir cet ordre naissant, et qu'il est à craindre que si elle se réduit à vivre en simple religieuse, elle ne voit bientôt son œuvre détruite. Quand elle n'aura plus de pouvoir ni de biens, elle perdrait tous ses biens parce qu'elle reçoit 12 000 écus par année, hein, c'est énorme. Alors elle pense qu'il est mieux, d'ailleurs de l'avis de son confesseur, de ne pas quitter son rang et sa dignité, et c'est pourquoi elle reste dans son palais. Elle s'y applique à tous les exercices de la règle quand même. Elle suit l'horaire, elle entend la cloche d'ailleurs. Elle cache sous un extérieur pompeux et magnifique, là, ses robes et tout ça, c'est pour bien, l'intérieur, elle cache son intérieur, puis les vertus d'une parfaite religieuse. Tout son plaisir est d'être au fond avec ses filles, auxquelles elle va très souvent rendre visite par le moyen d'une porte, une porte qui communique entre son palais et leur monastère. Et après avoir fait ses vœux, et que les premières filles qui ont reçu l'habit de l'ordre là, ont suivi son exemple, elle ordonne que l'on dispose toutes choses dans le nouveau monastère, qui est presque achevé, afin que le jour de la présentation de la très sainte Vierge, elle puisse offrir à Jésus-Christ ses nouvelles épouses, ce qui est d'exécuter comme elle l'a projeté. Car ces bonnes filles, bien, elles sortent de leur ancienne maison, puis elles vont deux à deux dans le nouveau monastère, chantant le psaume « In exitu Israël d'Égypto », hein, lors de leur sortie, quand Israël est sorti d'Égypte. Hein. Et l'archevêque de Bourges, quoique âgé de 80 ans, il tient à y officier pontificalement, avec tout, la crosse, la mitre et tout. Hein. Il est tellement heureux de tout ça. Et il ne reste plus à Sainte-Jeanne de France que de fonder de nouvelles maisons de son ordre à plusieurs endroits. Ah, elle y pense, mais elle n'en aura pas le temps. Parce qu'elle a été un peu trop austère, hein. Mais c'est un peu trop mortifié. Elle augmente tous les jours ses mortifications. Ça a beaucoup diminué ses forces. Comme quoi, il faut jamais abuser de ça. Hein. Notre corps est au service de notre âme, est au service de Dieu. Elle sent que le temps de sa mort approche. Et alors, elle rend visite pour la dernière fois ses religieuses le jour de l'épiphanie de l'an. On dit 1504 ou 1505, c'est que dans ce temps-là, l'année commençait à Pâques. Et on comptait les années différemment à cette époque. Alors, le 6 janvier 1505, selon la date qu'on donne, le jour de l'Épiphanie, elle apporte des présents des rois mages à ses sœurs. Elle leur explique les symboles. Puis, elle leur dit qu'elle a changé de nom. Elle oublie son nom de Jeanne de France, qu'elle a toujours porté si haut. Et elle préfère, avec ses sœurs, se faire appeler Jeanne Marienne. Marienne, curieux, pour exprimer davantage son union avec la Sainte Vierge. Et à mesure qu'elle approche de la mort, là, Sainte Jeanne de France, ou Sainte Jeanne Marienne, si vous voulez, elle est comme mue par un pressentiment. Elle est animée d'une grande émotion. Elle a curieusement des extases, des visions où le Christ et la Vierge lui apparaissent, puis elle s'en ouvre à son confesseur, elle est un peu gênée de tout ça, elle lui avoue qu'un jour la Vierge lui a présenté sur un plat d'argent deux cœurs, celui de notre Seigneur et le sien, comme aliment céleste, et qu'au cours de cette vision, son propre cœur s'est fusionné en celui du Christ. Ça rappelle bien des visions de saints. Il y a tellement de surréalisme dans tout ça que je trouve ça très beau en même temps. C'est très très beau, le symbole, la symbolique de ces visions grandioses. Elle reçoit l'Eucharistie, elle pleure de bonheur. Oui, elle pleure à la messe, elle a le don des larmes, en écoutant parler des souffrances du Christ. Oh, elle a des larmes bien différentes de celles qu'elle a jadis versées à Bourges, quand elle a appris que son mariage était nul, et que, à cause de sa laideur, au fond, son mari n'en voulait pas. Elle n'est déjà presque plus de cette terre. Elle écrit le 10 janvier un grand testament, elle n'oublie personne. Dans ses largesses, elle n'oublie pas ses religieuses, parce qu'elle a beaucoup d'argent quand même. Elle n'oublie pas ses filles d'honneur, ni les employés de la maison, ni les lépreux de ses seigneuries, ni les pauvres, ni les veuves, ni les orphelins, ni les malheureux non mendiants, gens de labeur ou mécaniques, comme elle écrit. Ni les maisons religieuses de son duché. Elle pense aussi aux élèves du Collège Sainte-Marie, auquel elle demande en retour un service annuel, puis enfin elle précise avec minutie les messes puis les prières qu'elle souhaite que l'on célèbre après sa mort. Le 22 janvier 1505, en la fête de Saint-Vincent, Sainte-Jeanne de France, reine, n'est-ce pas, fondatrice des Annonciades, comme je vous l'ai dit, je le répète parce qu'il y a des gens qui viennent de s'intoniser peut-être. Alors, elle vient après le dîner au couvent qu'elle a fondé, puis elle demande aux sœurs, priez bien pour moi, car je me sens bien mal. Les médecins, déroutés par l'étrange maladie, ils espèrent une convalescence prochaine, mais Sainte Jeanne de France, sûre de ce qui l'attend, se prépare. Oui, elle se prépare paisiblement. Oh, joie d'éternité, quoi. Elle communie souvent. Elle fait un jour des recommandations à son confesseur. Des recommandations qu'on a consignées par écrit. C'est un document d'une franchise émouvante. Je vous en lis quelques extraits. Mon Père, je n'ai confiance qu'en vous, de ceux que je laisse sur terre et en ce monde, et en mes sœurs. de vous, mais je vous les recommande. Je vous prie de faire accomplir mon vouloir et testament. Mon père, je vous connais bien. Vous vous donnez tout là où vous vous donnez. Vous êtes un vrai prêtre. Je vous prie, ne désirez, ne veuillez jamais suivre la cour. Je la connais mieux que vous. La cour, c'est au fond le monde riche, puissant et prétentieux. Elle dit, je vous prie de ne vouloir jamais être évêque ni prélat dans l'Église. Et s'il arrivait que l'on vous en priait, refusez-le de tout votre pouvoir, comme vous l'avez fait au temps passé. Ben, c'est pas recommandé. Moi, je crois qu'un très bon prêtre qui est nommé évêque doit s'incliner et l'accepter, il me semble. Nous avons tellement besoin de bons évêques. Hein. Nous en avons de bons. Ne croyez pas à la légère les gens de cour, dit-elle. Ni autre quand les paroles sont contre autrui. Et gardez, faites garder à mes sœurs ce que vous m'avez fait garder, c'est de toujours excuser ceux contre qui l'on parle mal. Elle ajoute, faites faire le bien aux autres plus diligemment que vous me l'avez fait faire à moi, car j'ai été trop lente, et je m'en repens. Eh bien, le 2 février 1505, jour de la Chandeleur, qu'on vient de célébrer, n'est-ce pas? Jeanne est au plus mal, elle a des vomissements violents qui l'empêchent de communier. Les religieuses se mettent en prière. Tandis que le sonneur là, de la cathédrale Saint-Étienne tire la grosse cloche pour avertir les gens de Bourges. Le 4 février au soir, Jeanne fait ses adieux et renvoie tout le monde pour mourir, recueillie profondément. Elle a demandé qu'on la laisse en tête à tête avec Dieu. Elle se souvient que sa mère Charlotte de Savoie, qui avait fondé des Clarisses de l'Ave Maria à Paris, s'est plainte, quelques instants avant de mourir, d'avoir été troublée par une foule de visiteurs. Alors elle garde seulement près d'elle une demoiselle d'honneur. Elle lui fait éteindre toutes les torches et tirer les rideaux de son lit. Cette jeune fille, jeune religieuse, s'assoit dans la chambre obscure pendant longtemps. Elle ne perçoit ni le frôlement d'un geste, ni le léger bruit d'un souffle. Puis au bout d'une heure, tout à coup, elle voit une lumière mystérieuse qui naît et qui grandit, puis qui environne le lit. Alors elle tourne la tête vers la porte. On croit qu'il y a quelqu'un qui porte un flambeau, qui vient d'entrer, parce que la porte est entrouverte. Mais comme elle ne voit rien, elle porte de nouveau son regard vers le lit. Et là, elle constate que la lumière émane du corps de Sainte-Jeanne de France. Quelques derniers rayons flottent encore sur sa poitrine et sur sa bouche, puis s'évanouissent. Et Sainte-Jeanne de France est entrée dans la grande lumière céleste, couronnée pour toujours par celui qu'elle a tant aimé, si bien servi. Hein. C'est le 4 février 1505, à 10h du soir. Jeanne de France n'a que 41 ans. Les religieuses chantent péniblement les matines, passent la nuit en prière. Le lendemain, le corps de la défunte est exposé sur un lit de parade, où pendant la journée, tout le monde peut la voir, et son visage, comme je vous ai dit qu'il était plutôt pas beau, hein, resplendit. Non pas qu'il soit devenu beau, mais il y a une espèce de revanche de l'immortelle beauté qui a commencé dans le paradis. Le soir, on fait sortir la foule. Le corps est embaumé sans être ouvert, comme Jeanne l'a demandé. Elle ne veut pas non plus que son corps soit partagé pour demeurer tout entier près de ses filles. Les femmes chargées de la toilette funèbre sont stupéfaites de trouver sur elle la haire et la chaîne qui la meurtrissaient. Alors on la revêt de l'habit des Annonciades, les sœurs, et par ordre du roi Louis XII, son ancien mari, du manteau royal de velours cramoisi et fleur de lys. Puis on la met dans 3 cercueils recouverts de 3 draps. Selon la coutume royale, on a auparavant pris son masque, dont je vous ai parlé au début de l'émission, et son effigie est placée au-dessus du catafalque dans la salle basse du palais. Des autels sont élevés tout autour, et pendant 18 jours, les psaumes et les messes se succèdent sans interruption. Chaque jour aussi, on sert les repas de Jeanne comme si elle était encore vivante. Et par plusieurs lettres, bien le roi Louis XII exprime le désir qu'on fasse à la défunte des funérailles somptueuses. Le 20 février, elle est morte le 4, hein? Le 20 février, avant veille des funérailles, on transporte le corps à la Sainte-Chapelle, où l'on allume le fameux lustre de 20 mètres de circonférence, imaginez, aux 160 cierges, ce qu'on n'avait pas fait depuis la consécration d'édifice, c'est-à-dire depuis 100 ans. Le 22 février, après une messe solennelle, le corps est porté au couvent de l'Annonciade. Une multitude impressionnante suit ce cortège dans un silence profond. On n'entend que le glas des cloches de la ville. La partie la plus émouvante de ce défilé, c'est la foule disparate des veuves, des orphelins, des écoliers, des infirmes et des mendiants que Jeanne a soulagés et auxquels elle a pensé dans son testament. Le corps est reçu dans la chapelle de l'Annonciade par son directeur spirituel et après une seconde cérémonie, il est descendu dans le tombeau qu'on lui a préparé sous le cœur des religieuses. 8 jours après le 2 mars 1505, le roi Louis XII fait son entrée solennelle à Bourges. Lui, qui à 9 ans avait épousé Sainte Jeanne de France, qui n'en avait que 9, et dont le mariage a été annulé par le pape, vient, il fait son entrée solennelle, puis un soir, il vient tout seul au couvent de l'Annonciade, il descend dans le caveau de la chapelle et s'agenouille longtemps, silencieux, sur la tombe de Sainte Jeanne, dont la réputation de sainteté s'est répandue partout. Et par ce geste de réparation, le roi prouve le réveil de sa vie morale, le redressement de ses facultés, si on peut dire, qui lui mériteront bientôt le surnom de père du peuple. Sainte Jeanne n'a laissé aucun écrit vraiment qui livre explicitement les richesses de sa vie intérieure, mais elle a quand même été canonisée en 1950, comme je vous ai dit au début de l'émission. Comme quoi une femme réputée laide peut être noble et grande. Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai interviewé Marie-Madeleine Davy, qui était, disons pas très belle, pour être gentil, elle m'a supplié de faire que mon caméraman ne s'approche pas trop avec sa lentille de sa figure. Et elle m'a regardé comme si, au fond d'elle-même, il y avait un être blessé qui parlait. Car elle n'était pas belle. Mais elle était belle à mes yeux parce que je n'avais pas remarqué son accueil, sa culture, sa foi. Cette immensité de son être intérieur était tout ce qui comptait à mes yeux. Et c'est ce qui compte. Mon fils m'avait déjà écrit, lui qui ne savait à peine lire et écrire. Bon, il y a bien longtemps, il a écrit ça dans les années 70. Ce n'est pas la beauté qui compte, c'est le cœur qui compte.